Salut, moi c'est Léa du compte Insta Merci Beaucoup. Et si t'es là, c'est qu'a priori t'as envie de parler de cul. Ce podcast est une partie du jeu Discutons que j'ai créé pour lancer ou relancer des conversations autour des sexualités, que ce soit avec des inconnus, tes potes, ton plan cul, ton mec ou ta meuf et même ta daronne. Et si jamais toi aussi t'as envie d'être de la partie, je te donne rendez-vous aux soirées Discutons où l'épisode est enregistré en live. Bonne écoute! Je suis très très contente de faire, à chaque fois je dis que je suis très très contente de faire ces épisodes, mais c'est vrai en même temps, je suis très contente d'avoir des invités à chaque fois. Je suis hyper curieuse de tout ce qui va se dire, parce que c'est vraiment des gens qui ont des regards qui m'intéressent de ouf. Et donc aujourd'hui, je suis en compagnie de deux nouvelles personnes. Je suis avec Adélaïde Barra-Magan, aka Avec Plaise, sur Instagram. Adélaïde, t'es créatrice de contenu engagée autour des violences sexistes et de l'intime politique. Et autrice du livre « Nos désirs font des ordres » aux éditions Le Duc.
Tout à fait, c'est acheter ça. Au plus vite.
Oui, achetez-le. Comment tu vas aujourd'hui ?
Ça va, écoute, franchement pour être honnête, je crève de chaud.
Ouais, il fait chaud ici.
Mais je suis très heureuse d'être là, je suis vraiment ravie d'être avec vous deux, donc ça me...
Très contente que tu sois là aussi, et j'ai hâte qu'on discute de tout ça. T'as l'habitude de parler de cul dans ce genre de contexte
Non, pas du tout. J'ai l'habitude de beaucoup théoriser et intellectualiser le cul et en parler de façon politique la plupart du temps.
Ok.
Donc c'est tout nouveau pour moi, mais je suis très contente.
Super. Bah écoute, on va explorer ça ensemble. Je suis aussi accompagnée de Jamal. Tu es le créateur et host du podcast Jeans, qui est le premier podcast sur le genre et les sexualités des Arabes et des musulmans musulmanes. Et sur ton compte Insta, tu relayes aussi plein d'infos sur les relations, le genre, l'amour et la sexualité.
Tout à fait.
Comment tu vas ?
Au top, merci de m'accueillir, je suis ravi d'être là.
Avec grand plaisir, ça va, t'as pas trop chaud non plus ?
J'ai chaud, mais c'est aussi comme ça qu'on parle mieux de sexualité.
C'est vrai, j'ai envie de dire, on est dans le thème. Pareil, toi, t'as plus l'habitude de parler de sexualité dans un micro, non ?
Oui, j'ai plus l'habitude de parler de sexualité, mais effectivement comme sujet politique ou comme quelque chose de plutôt socio-anthropo-psychologique. Ouais. En fait, c'est les gens qui viennent se confier à moi.
C'est vrai. J'ai l'impression que très vite, quand c'est un sujet qu'on a une facilité à aborder, les gens, c'est un peu marqué sur le front. Genre, venez me raconter vos histoires de cul. Genre, voilà. C'est un peu... Ça vous parle.
Ah, complètement.
Moi, c'est un peu pour ça que j'ai ouvert mon compte. Hein. Je ne sais pas pourquoi la conversation déviait forcément vers ça. À un moment, je me suis dit, il y a un truc.
Il y a un raz-de-marée de messages qui parlent de sexualité, de comment ils font, comment ils procèdent, vraiment dans le détail. Quoi.
Mais je pense que c'est parce qu'il y a un besoin d'être entendu, en fait. Il y a juste ce truc de pouvoir avoir une personne à qui dire ça et de ne pas se sentir jugé. Les gens sont en mode waouh, ok, j'ai besoin de sortir plein de choses. Et parfois même on est un peu submergé par tout ça. Mais du coup aujourd'hui on va un peu plus parler de nous, de vous. On va jouer à une partie de mon jeu Discutons, qui est du coup un jeu de cartes conversationnel pour toutes les personnes qui ont un peu, pas forcément des difficultés, mais qui peuvent avoir des difficultés à lancer la conversation, parce que parfois c'est empreint de beaucoup d'émotions et de beaucoup d'enjeux émotionnels en tout cas. Et voilà, j'avais envie de créer ce jeu pour juste aborder plein de sujets. Donc les règles du jeu, on va tirer une carte et tout le monde va répondre à tour de rôle. Si jamais vous n'avez pas envie de répondre à une question et que pour une quelconque raison, c'est un peu dur de dire « non, je préfère pas », il y a des cartes joker que vous pouvez me brandir devant les yeux, il n'y a pas de souci, que vous pouvez utiliser autant de fois que vous voulez. Et puis voilà, on
D'accord.
y va. Je me permets de tirer la première carte et vous y répondez.
Allez.
Vas-y.
Allez, c'est parti. On y va direct. Quel message ou expérience a impacté ta vision de la sexualité ? C'est parti, vous avez 2 heures. Qui veut commencer ?
Je peux commencer. Je crois qu'en tant que meuf, tous les messages de mecs que j'ai pu recevoir déjà ado, des dick pics, des liens vers des films porno que je recevais de façon absolument pas réclamée.
Genre les gars t'envoient ça, genre
comme ça.
Ok.
Et ça a créé un énorme dégoût de la sexualité. J'étais très jeune, j'étais genre au collège, je pense, début du collège où t'arrives, toi t'es genre en 6e, 5e et t'as les mecs plus âgés. Qui vont vraiment nous percevoir comme des proies et qui vont se servir des réseaux sociaux qui étaient un peu tout neufs à l'époque pour envoyer des choses absolument pas réclamées, voulues, machin.
Pour imposer leur truc, ouais.
Et j'ai le souvenir, enfin vraiment, dès que t'as posé la question, j'ai eu ce souvenir de ça avant même de penser à des échanges plus érotiques et consentis. Mmh. Non, vraiment, genre les trucs absolument pas voulus que tu reçois d'un coup comme ça. Genre,
et tu dirais, ça a été ton premier contact, enfin pas contact, mais conscient avec la sexualité, ça a été ça, ce truc de « oh waouh, en fait c'est ça le cul » ou déjà t'avais eu quand même un semblant de...
Genre j'en parlais un peu avec mes potes, c'était déjà quelque chose dont on parlait, mais pas de façon aussi frontale.
Ouais. Mmh.
J'ai l'impression que nous, c'était un peu caché, on en rigolait, on racontait 2-3 trucs qu'on avait vus à la télé super tard le soir, machin. Mais les mecs, c'était très franc. J'ai ce souvenir-là. Et donc, ça m'a vraiment créé une image de la sexualité sale. Mmh. Mais parce qu'ils m'envoyaient des trucs vraiment hyper crado.
Ouais, ouais.
Et ouais, ça a été ça. Et ça a été ça pendant longtemps. Et même avec mon compte Instagram, au tout début, où je parlais plus de sexualité que maintenant,
okay.
J'avais aussi des messages... En fait, dès que t'es une meuf qui parle le cul sur Insta, on te met une étiquette. On a l'impression qu'on peut t'envoyer demander n'importe quoi, des conseils pour leur rapport à eux ou des invitations. Et c'est vrai que ça n'a jamais été très fun, moi, les messages que j'ai reçus.
Et aujourd'hui, justement, cette première expérience, c'est quelque chose dont t'arrives à te détacher ou tu sens qu'il y a toujours un espèce de restant de... truc qui t'appartient pas, en fait, finalement.
Eh ben, maintenant, dès qu'un mec m'écrit sur Insta, genre avec mes proches, je l'ai plus du tout, ce truc-là, je m'y attends pas. Enfin, je sais que ça viendra pas. Mais sur Instagram, j'ai une majorité féminine en termes de communauté. Ouais. Et dès qu'un mec m'écrit, je me dis, oh purée, qu'est-ce que ça va être? Okay. Dès que c'est un message vocal, dès que c'est une photo, j'ai cette appréhension. Mm. Ça n'est pas arrivé en très longtemps. Genre là, vraiment, il n'y a pas eu grand-chose. Mais il y a quand même ce petit... Le cœur qui palpite d'un coup, qui dit, merde, je vais tomber sur quoi? Je pense qu'avec le temps, genre, je m'en suis un peu aussi détachée. Genre, je le prends moins pour moi qu'avant.
Moins frontalement aussi, peut-être, ouais.
Je bloque, je dégage la personne, ou je vais l'engueuler, la menacer, un truc comme ça. Alors qu'avant, ça me restait, genre, ça me travaillait pendant des heures, des jours.
Ouais, ben, je peux comprendre, c'est violent de ouf, hein.
Ouais, vachement. Mais aujourd'hui, j'en suis, on se blinde un peu, quoi. Mm. Tu sais, tout simplement, c'est bête, mais on prend de la distance par rapport à ça, et ça nous fait plus grand chose. Ce qui est un peu triste.
C'est ce que j'allais dire. C'est franchement grave dommage qu'on doive en arriver là. Moi, ça dépend pourquoi, mais moi, me blinder, je ne sais pas faire ça. Je sais pas vous, mais à moi, me blinder, moi, les commentaires, je les prends tous à cœur. Je suis là. Tu sais, genre, le mec me connaît pas, la meuf me connaît pas, mais je suis là. Non, mais je sais que c'est pour moi, personnellement, qu'il a dit ça, tu vois. Mais en effet, dans ta raison, il y a un truc où ces gens se permettent d'être violents d'une certaine manière. Il n'y a aucune raison pour que toi, t'accueilles le truc en mode, c'est pas très bien ce que t'as fait, tu sais, je vais t'expliquer. Vas-y.
Bloc,
dégage, quoi.
Fini, ouais.
Ok. Non, mais je comprends. C'est quelque chose où finalement des gens se sont imposés dans une intimité en fait finalement de t'envoyer ces choses-là et je comprends qu'après ça te touche directement puisque en plus à cet âge-là les images c'est quand même assez c'est le premier truc que tu vois je pense sur le cul t'es là genre ah waouh ok c'est ça en fait d'accord.
Puis je pense qu'il faut rappeler aussi pour les auditeurs qui nous écoutent que c'est ultra important de se dire que c'est quelque chose d'illégal aujourd'hui c'est-à-dire que ça coûte c'est une amende de 750 €. Si tu envoies une dick pic, si tu envoies une sollicitation quelconque, une forme de harcèlement qui revient avec la récurrence, ça passe à 1 500, il y a des peines d'emprisonnement ensuite. Donc, il ne faut plus juste... quand il n'y a pas de consentement déjà, il ne faut pas, ça c'est évident. Mais en plus, le fait de parler de sexualité, de cul, peu importe comment on l'appelle, ce n'est pas une invitation à ce qu'on en parle de manière ouverte et à nous solliciter comme étant des proies, en fait, à cette sexualité-là.
Il faudrait que ça rentre vraiment sur le truc il y a une amende parce que c'est un délit, parce que c'est quelque chose qui n'est pas autorisé et que ce soit plus juste une espèce de blague un peu dégueu, tu vois, mais qu'on prenne au sérieux en fait le fait que être exposé à des trucs sexuels dont t'as pas envie, c'est no way, c'est n'est pas acceptable. Mais merci.
Et en tant que cis, j'aimerais dire, on peut très bien draguer et bien séduire et pas envoyer notre pénis en photo.
Bah oui, non mais.
Parce que tous ceux qui disent, oh non, mais on peut plus rien dire, mais on peut plus draguer, comment on va faire
mais
maintenant?
Mais qu'est-ce que je vais faire? Mince, voilà, je montrais. On sait que ça tout le monde avant.
C'est vrai que la vie est dure, mais évitez quand même.
Évitez, s'il vous plaît. Et toi, du coup, est-ce que tu as un message ou une expérience qui t'a marqué, qui a marqué ton entrée dans la sexualité ou qui marque toujours?
Ben, moi, c'est très complexe parce que du coup, moi, j'ai grandi au Maroc et c'est vrai que c'était pas du tout. C'était pas un environnement, même étant plus ou moins bourgeois, disons. J'étais dans un lycée français, donc j'avais accès à plein de choses, disons, à tous les médias type TF1. À accès à Internet, etc. Donc, j'avais vraiment, en termes de classe sociale, j'avais accès à toutes ces choses-là. Mais disons que j'étais aussi dans un contexte arabe et musulman qui faisait que on ne pouvait pas parler de tout ça, tout en devant s'affirmer, évidemment, le plus vite possible en tant que conquérant. Moi, je dis toujours que c'est une histoire de quête et de quéquette. Et de conquête.
J'adore.
Voilà. Conquête, quéquette, quéquette.
Au cube,
voilà.
Quoi, ouais.
Voilà.
J'adore.
Non, mais c'est vraiment l'idée, en fait, qu'à chaque fois, on doit prouver son hypervirilité aux grandes dames des femmes, d'ailleurs, puisque du coup, il faut absolument être un peu conquérant. Ça veut dire aussi les humilier en public. Ça veut dire aussi, ouais, je l'ai eu, mais elle, je pourrais l'avoir demain. Et puis, donc, collectionner, etc. Donc, il y avait vraiment cette idée-là de, entre groupes de mecs qui, évidemment, n'ont jamais touché à une meuf, disons, dans une sexualité quelconque, se targuaient tous d'avoir touché beaucoup de meufs différentes. Et voilà. Donc il y avait vraiment cette définition de quel est le faire en premier. Puis une fois que tu l'as fait en premier, ben, du coup, s'il y en a eu un, ça veut dire que tout le monde doit l'avoir fait aussi.
Oh, okay.
Il y a vraiment cette précipitation énorme au niveau des mecs. Et ben, les jeunes femmes, en fait, elles sont... Alors, pas du tout protégées, pour le coup, évidemment, par rapport à ça, puisque du coup, les mecs, quand ils ont cette pression-là, ben, ils font tout pour essayer d'y accéder. Donc, on se demande parfois à quel point le consentement est respecté aussi. Mmh. Du coup, même de, au-delà de la sexualité, hein, ça peut être aussi un bisou, ça peut être une caresse, ça peut être aussi une sexualité qui n'est pas pénétrative. Mais ouais. Parce que du coup, il y a aussi la question de l'hymen, il y a aussi la question de se préserver dans son corps. Voilà, donc il y a plein de choses. Mais en tout cas, moi, je sais qu'il y a tout un contexte que je développe du coup largement dans le podcast avec plein d'invités différents et différentes, que... Il y a quelque chose qui sclérose la sexualité dès le départ parce qu'on n'a pas vraiment envie autre que pour impressionner les autres ou pour justifier le fait qu'on soit pur, en état de pureté absolue pour les femmes, pour le coup. Et s'il y a un message, vraiment, si je prends au mot le mot message, c'est-à-dire SMS, je me souviens d'un message qui m'a beaucoup traumatisé, qui m'a fait me poser les questions que je pose aujourd'hui dans mon podcast Jeans, c'est... Un message d'une ex qui n'était pas contente que je mette fin du coup, à l'histoire, qui n'avait pas duré trop longtemps, c'était 6 mois, je crois, et qui me disait de toute façon, au lit, t'es pas assez violent pour moi.
Ok.
Et en fait, elle m'avait jamais dit qu'il fallait que ce soit un peu plus, disons, spicy, notre sexualité. Elle l'attendait juste de moi. Et en fait, j'ai très vite compris que la relation qu'elle tenait, alors je précise que c'était une femme blanche, la relation qu'elle tenait à mon corps et à notre sexualité, c'était parce que j'étais un homme arabe et musulman, que je venais du Maroc et que j'étais censé être un homme viril, qui vraiment l'insulte, qui lui donne des petites frappes, et que ce soit pas forcément quelque chose de prévu à l'origine, quoi. Que ce soit quelque chose plutôt qui la surprenne.
Ouais, ouais.
Et moi, j'étais tétanisé parce que j'étais pas du tout une démarche dans la sexualité qui est trop violente ou virulente ou qui aime bien insulter ou cracher ou un peu malmener comme ça, parce que ça peut être très excitant aussi. Je juge pas du tout les personnes qui ont des scénarios sexuels qui sont vraiment dans cette virulence-là, disons, juste pour le jeu sexuel, quand c'est consenti. Évidemment, c'est aussi un gros sujet par rapport au BDSM. Quand il y a consentement, on peut faire ce qu'on veut, on joue comme on veut. Mais moi, c'était pas mon truc. Mais elle attendait ça de moi. Ce qui,
sans
en fait,
te dire, du coup.
Voilà, sans me dire. Donc, du coup, et en la quittant, elle m'a miroité le fait que c'était pas plus mal parce que, du coup, c'était pas simplement que, elle aimait pas être avec moi au pieu, c'est que elle aimait pas à quel point j'étais trop doux pour elle. Et en fait, ça m'a un peu choqué parce que je me suis dit, là, on a typiquement un stéréotype de fétichisation raciale, de racisme sexuel, en gros, de quelque chose
stéréotype
qui...
de genre aussi, un petit
stéréotype
peu,
non de genre aussi. L'homme, un homme, ça doit prendre en levrette, ça doit
tirer les cheveux,
exactement, ça doit plus buter contre un mur, ça doit te prendre par surprise, ce que je rappelle est une des mentions du viol, c'est tout le script comme ça sexuel de pas de consentement éclairé, pas d'enthousiasme, de la surprise, etc. C'est du viol. Donc moi, je m'inscris pas du tout évidemment dans ça, et en fait, avec plein d'autres anthropologues, on parlait de cette trinité, moi, que j'appelle les 3 V de l'homme arabe musulman, c'est le voleur, le violent et le violeur. Et c'est vraiment cette question-là de je te vole ta dignité, je te violente contre un mur pour que tu sentes que la tension sexuelle monte et je te viole dans un scénario sexuel qui va te faire du bien. Mais moi, je trouve ça absolument affreux et odieux. Et toutes les personnes, malheureusement, je trouve, qui aujourd'hui ont ce script-là par rapport à la racisation, par rapport au fait qu'ils soient racisés, je trouve que c'est vraiment délétère, que ça fait du mal, que c'est toxique, parce que ça reproduit des stéréotypes, des archétypes qu'on devrait absoudre définitivement. Voilà.
Ouais, mais si, comme tu dis, il n'y a pas de conversation déjà de base, c'est difficile d'avoir accès à cette réflexion. Et quand tu vois que même finalement des partenaires peuvent poser sur toi une espèce de stéréotype sans même t'en parler, t'es même pas conscient de ce qui se passe. Et en fait, à la fin, c'est un reproche. T'es là, mais attends, mais déjà, je peux pas lire dans tes pensées. Et en plus, tu m'imposes un stéréotype lié à mon identité, duquel déjà peut-être j'essaye de m'affranchir. T'en sais rien en fait, quel rapport j'ai à ça. C'est vrai que c'est compliqué de, encore une fois, de démêler l'intime, le personnel. Moi, en fait, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui est attendu de moi. Et du coup, je trouve que, et puis vraiment ce truc à la fin, tu sais, reproche, à la fin je te le balance comme ça, non mais c'est facile, c'est... enfin bref, empathie zéro, ce genre de message, clairement, empathie
on est
zéro.
On est d'accord.
Et aujourd'hui tu penses que ça impacte encore
clairement, sexualité, ouais. clairement impacté. C'est-à-dire que je sais à quoi m'attendre aussi dans le jeu amoureux, dans la quête aussi sexuelle, dans le fait aussi de pouvoir relationner avec des personnes. Je sais que ça peut toujours être un danger parce que avec aussi le flot de témoignages que j'ai reçus sur le podcast, je parle des hommes bien sûr. Alors il y a les hommes arabes qui sont aussi dans la sphère LGBTQIA+, qui eux aussi souffrent énormément de ces questions-là de fétichisation par des hommes blancs qui les imaginent comme des éphèbes, un peu au torse glabre, ouais. qui sont musclés, qui sont forcément actifs, qui sont jamais passifs, ou alors qui sont passifs que s'ils les payent ou qu'ils leur donnent quelque chose en échange. Donc quelque chose vraiment comme ça de l'orientalisme qui se reproduit dans les relations sexuelles. Et puis évidemment, enfin, comment ne pas parler des femmes aujourd'hui, enfin, tout le stéréotype de la beurette, cette question évidemment, moi c'est un mot que je déteste et que je condamne fermement. Et que, alors après, si on se le réapproprie comme l'a fait par exemple Lisa Boutelja, c'est une chose, évidemment chaque femme a le droit de se réapproprier ces termes-là qui sont stigmatisants, mais je pars du principe que le moins on peut dire ce mot, le mieux c'est, ouais. si on peut l'effacer de notre vocabulaire. Comme dire d'une femme noire que c'est une panthère ou que c'est bien une sûr, sauvage ouais. jeune ou que je ne sais quoi, qu'elle a le rythme dans la peau, qu'elle a zouké sur ma bite ou je ne sais quoi. Toutes ces choses-là que les mecs disent entre eux, en fait, dans les boys bands, qui se partagent. Ah ouais, mais elle, c'est ma petite rose des sables. J'adore quand elle me fait une danse du ventre avant qu'on couche ensemble, etc. Toutes ces choses-là, en fait, elles contribuent à réduire, à essentialiser les femmes et à réduire ouais. une seule personne. À réduire plutôt toute une ethnicité, une race, une culture, ouais, une religion à un seul comportement
un aspect,
et à une
ouais.
seule personne. Donc c'est hyper réducteur, c'est rabaissant. Et puis, comme je le rappelle toujours, beurette, on dit un beurre, mais on dit une beurette. Et le petit être, c'est diminutif.
Ouais,
encore. T'es encore moindre.
Ouais, c'est ouf de voir que c'est des choses qui se répercutent après du macro au micro et qui ouais. c'est ça, c'est des trucs que tu peux observer au niveau sociétal, parce que ce que tu disais tout à l'heure avec les potes, je trouve que du coup le sexe ça te positionnait socialement en fait, j'ai l'impression que c'est dans un truc où tu l'as
Totalement.
Fait, tu l'as pas fait. OK, bah en fait toi t'es le dernier des potes, donc un peu la honte. Ah mais elle l'a pas fait, donc ou alors elle a couché, donc elle est pas pure. Machin, donc ça te positionne socialement, mais après finalement
100%.
tu te retrouves dans une intimité qui te dérobe de toute ton identité. Difficile de construire quelque chose qui t'appartient en fait.
C'est évidemment très difficile, mais
base,
du coup
ouais.
les femmes, c'est même pas seulement une question de rang social par rapport aux potes, c'est que c'est une dignité humaine. Ça
ouais.
veut dire qu'elles sont tout de suite, en fait moi je parle toujours du triangle mère, sainte et pute.
Ouais.
Du coup, soit t'es une sainte et personne te touche.
Bien sûr.
Et donc sainte ni touche, c'est vraiment ce principe là. Soit t'es une mère et donc t'as eu le droit d'avoir une sexualité pour pouvoir enfanter. Mais si tu es autre chose que ça, tu retombes toujours dans la case pute.
Ouais.
Et en fait, une femme qui aurait couché, alors donc les mecs qui se targuent d'avoir couché avec 1000 femmes, alors qu'ils ont 16 ans et demi, qu'ils ont 2 poils au menton et que voilà. Mais du coup, une fois qu'ils se disent ça, on se rend compte qu'il y a aucune femme qui dit qu'elle a couché avant. Donc en fait, qui sont ces femmes avec qui ils couchent
ouais, bien sûr.
Déjà. Et puis en fait, socialement, effectivement, les mecs, du coup, c'est pas ouf d'être le dernier de tes potes qui a pas couché encore et que t'as 21 ans et ça tarde et voilà. Donc t'as pas encore de sexualité parce que t'as peur et tu sais pas si tu vas être performant, si tu sais pas comment les films porno t'ont construit. Et puis toi, t'as encore. Ce que je veux dire par la fétichisation, c'est aussi que tu as encore plus de poids social. Sur le fait qu'un homme arabe ou un homme noir, ça doit avoir un sexe disproportionné, ça doit être avoir une musculature bien donnée, ça doit aussi prendre de manière assez virulente le cul d'une personne, enfin voilà. Et de l'autre côté, t'as ces femmes arabes qui doivent être toutes dansantes, toutes dénudées, mais pas que, un peu voilées quand même aussi, et puis se donner dans les parfums de l'Orient, enfin tout ça, tu vois.
Donc tu trouves que, pour toi, est-ce que dans le récit, le fantasme très caucasien qu'il va y avoir justement, tu le retrouves après dans les sphères... est-ce que ça se calque ? Ou est-ce qu'il y a un truc de, on sait que c'est pas ça, et du coup, c'est complètement d'autres codes et justement d'autres messages que tu entends. Et
tu veux dire intragroupe ?
Ouais, voilà. Parce que du coup, je me dis, c'est quand même un fantasme très blanc, ça, j'ai l'impression.
Alors, chez nous, c'est l'inverse. C'est que les hommes vont chercher plutôt des femmes blanches avec qui coucher.
Okay.
Ça va être l'européenne avec qui j'ai passé mon été. Mais ils vont chercher des femmes marocaines, arabes. Du coup, là, je parle du Maroc, donc je parle de marocaines, mais des femmes arabes avec qui pouvoir exercer un hlel, c'est-à-dire un mariage.
Ouais.
Dit d'amour et un mariage légalement correct, religieusement licite aux yeux de l'islam. Et donc, du coup, elle, il faut qu'elle soit pure, il faut qu'elle soit vierge.
Okay. Bah ouais. Donc même les représentations finalement
évidemment.
Comment tu te retrouves là-dedans et comment tu construis ton identité là-dedans quand t'as des messages qui sont si différents à droite à gauche et que...
Tout à fait, pour finir pour moi c'est vraiment encore sur la question intra-groupe de la sexualité qui peut devenir violente ou qui peut violenter ou pas consentie, c'est qu'en fait quand tu as une société qui te regarde constamment et qui te montre que tu ne peux... En fait, les femmes ne peuvent pas coucher, mais les hommes doivent coucher le plus vite possible et le plus longtemps possible et avec le plus de femmes possible. Bah déjà, toute sexualité dite déviante est illégale. Ouais. Ça veut dire que tu ne peux pas être une personne LGBTQIA+, dans un pays arabe comme le Maroc, par exemple. Mais au-delà de ça, la sexualité devient fugitive. Ça veut dire que les amoureux, quand ils veulent coucher ensemble, ils vont aller dans une voiture, se cacher. Vite, il a eu la voiture du père, ben, ils vont se mettre dans la voiture et il va se passer par exemple une fellation, un truc comme ça. Ils sont prendre par les flics, ils vont en prison.
Okay.
C'est hors mariage, c'est sexualité hors mariage, donc c'est de 3 mois à 1 an de prison.
Ouais, donc déjà, à partir du moment où tu intègres de la peur et de l'illégal et de machin, c'est clair que c'est difficile de juste prendre le temps de chercher, de savoir ce qui te va quand c'est déjà dicté moralement. Quoi.
Bah
c'est
oui,
clair
parce déjà quand c'est fugitif, t'as même pas le temps de te poser pour avoir une sexualité, tu dois juste faire le truc vite, tu vois, et donc... Ça précipite l'acte, ça peut parfois mener à des actes non consentis, ça peut aussi mener à des actes qui, en fait, sont très égoïstes, parce que du coup, il faut juste que le mec, il bande vite, qu'il rentre dans un trou,
ouais,
c'est hyper pénétratif,
hyper
mécanique. Voilà, je l'ai fait, après, maintenant, je peux m'en targuer auprès de mes potes. Mais... Et du coup, la meuf, en un seul coup, devient pute si ça se sait. Et en général, il y a aussi ce truc de harcèlement-là, de « je vais faire tourner la rumeur que », et puis « t'aurais pas dû, parce qu'en fait, si t'as voulu faire avec moi, c'est que t'es vraiment une pute », etc. Donc, il y a ces dimensions-là, voilà, sont très complexes, et elles se retrouvent malheureusement aussi dans les sphères arabes et ou musulmanes en France, pour les personnes issues d'immigration maghrébine, mais pas que. Voilà, quand même préciser le « mais pas que ».
Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, ce truc de... Les mecs, ils sont censés avoir plein de partenaires et les meufs. Non, c'est ce truc de, tu sais, quand un mec te dit, de toute façon, si tu couches le premier soir, t'es une meuf facile et t'es là. Avec qui je couche? Avec what?
Ouais.
Elle est la logique, elle est où? Du coup, qu'est-ce qui me rend facile et salope? Toi, ta queue? Genre, au bout d'un moment, du coup, la logique, elle est. Et c'est ça où des fois, tu te dis, mais juste si tu te poses deux secondes, tu vois que. Mais à un moment, ça bloque, en fait, la réflexion.
Mais c'est fou comme ils sont aveugles, en fait, au double standard. C'est qu'il y a ce truc de, si toi, en tant que femme, tu le fais, bah, comme tu dis, en fait, t'es catégorisée en tant que pute, direct. Ils te laissent même pas le temps. Parfois même, c'est des rapports pas consentis.
Ouais, en plus.
Donc, tu te retrouves, en fait, dans une sexualité hyper cloisonnée, qui autorise et encourage la violence. Et donc, les rapports non consentis, donc les viols ou les agressions sexuelles. Et toi, t'es tout de suite catégorisée comme pute. Tout simplement, et ça va se savoir. Et le mec ne comprend même pas, en fait, que ce qu'il a fait, c'est une violence. Et s'il y a une victime, il y a un agresseur. Dans leur tête, ça ne se passe pas. Mais comme la même chose, c'est s'il y a un rapport le premier soir, ils sont au moins deux.
Bah,
et donc,
oui, ouais.
Et donc lui aussi le fait le premier soir. Mais il n'y a pas de terme, en fait, pour les hommes. Pour les femmes, c'est voilà, fille facile, ça va très vite. Un homme facile, il faut y aller, quoi, pour qu'on puisse lui coller ce nom.
Ouais, même s'il a 1000 conquêtes, au contraire.
C'est un don Juan.
Il est trop beau, il est trop fort, on voudrait tous être lui. Et puis tous les masculinistes l'applaudissent, et puis on va faire des comptes Instagram sur lui. Enfin, c'est vraiment... Je crois qu'à une époque, il y avait des mecs sur Secret Story de qui c'était le secret. C'est j'ai couché avec plus de 800 personnes et tout.
Ah ouais, d'accord.
Je sais pas si vous vous souvenez,
mais ça me
flash là.
J'ai plus de temps de conquête ou je sais pas quoi.
Jamais une meuf ça pourrait être ça.
Mais jamais de la vie. Tu dépasses 20-30, les gens ils te disent mais en fait toi t'as couché quand, t'as eu le temps quand.
Mais... J'ai eu l'expérience pas comme ça d'un ex qui avait eu X partenaires mais il y avait 3 chiffres. Clairement, j'étais là, bon, bah écoute, c'est la vie, tu vois. Genre, il s'avère que t'as croisé autant de personnes. Moi, je lui ai dit un chiffre qui était genre, je crois, un peu moins de 30. Il était là, quand même, c'est beaucoup. Hein.
Ouais, c'est
ah ouais, oui,
mais
bah
c'est
voilà.
Sérieux. Genre, était, oui, mais toi, c'est pas pareil. Mais comment ça, c'est pas pareil? Genre, oui, mais moi, voilà. Non, mais gars, en fait, à partir de ce moment-là, comment est-ce que tu peux mettre le quelconque jugement? Et pourtant, le mec ouvert sur la question et tout, j'étais là, mais le double standard, il est dur à faire partir, quoi.
Mais il y a aussi la question de pénétrant et pénétré. Et ça crée aussi une sorte d'imaginaire collectif autour de la personne pénétrée. Si tu pénètres, t'es actif. Si tu le fais beaucoup, donc t'es super actif, génial. Mais si c'est toi qui es pénétré, c'est ce truc pourri, il a de la serrure et de la...
Je
peux pas me l'entendre, ce truc. Mais pourtant, ça revient souvent. Genre sur Twitter, c'est le truc qui vient en boucle, cette question de une clé qui peut ouvrir toutes les...
On va changer, on va dire coton-tige. Le coton-tige, tu ne trompes pas dans plein d'oreilles différentes. Bah voilà, laisse-moi tranquille avec ta teub, là.
Non, mais c'est catastrophique. Mais c'est vrai que ça, c'est très important ce que tu viens de dire aussi, parce qu'en fait, la question de la pénétration, évidemment, il faut aller au-delà de ça, et il y a plein de personnes qui en ont très bien parlé. Mais ça dit aussi quelque chose de très symptomatique d'une société malade sur la sexualité, notamment dans les pays du monde arabe. Et moi, je milite aussi au Maroc sur ces questions-là, de comment on peut s'affranchir en fait des lois liberticides sur la sexualité en général, et en particulier sur les questions de relations avec personnes dites de même sexe, dites contre nature d'ailleurs, là-bas c'est dit comme ça, et on prend en gros 6 mois à 3 ans de prison quand même, si ça s'avère être le cas. Et du coup, la question de l'homme pénétré et de l'homme pénétrant, elle va pouvoir affirmer qui est le gay entre eux. Il y a beaucoup en Iran, au Pakistan, au Maroc, en Égypte, etc. Il y a plein de mecs qui, comme ils n'arrivent pas à trouver de femme avec qui se marier, qui est pure, ils doivent, en gros, un peu assouvir leurs pulsions ailleurs. Et en général, soit ils se branlent entre eux, soit ils commencent à avoir des environnements homoérotiques, soit ils pénètrent d'autres hommes, donc ils sont soit prostitués, soit d'autres hommes qui veulent bien, qui ne veulent pas forcément. Il y a aussi des trucs coercitifs assez durs aussi entre hommes aussi. Mais cette question-là de, moi je peux baiser tous les mois un mec différent, mais je suis toujours hétérosexuel. Et en fait, c'est tant que je pénètre, je reste un homme. En fait, cette question-là, pour moi, elle est anthropologiquement tellement horrifiante, parce qu'elle dit une chose très claire, c'est qu'à partir du moment où le corps est pénétré, il est celui d'une femme, et une femme, il n'y a rien de pire au monde. En gros, c'est le truc du statut anthropologique de tu es rabaissé, tu es sous-humain. Et donc, du coup, les gays, pareil, en fait, c'est pour ça qu'aussi les luttes féministes et les luttes LGBT, en général, elles allaient de pair, mais c'est vraiment le statut de c'est qui le sous-humain entre nous. C'est toujours le corps pénétré. Et en fait, il y a quelque chose comme ça qui est dingue, parce qu'en fait, en plus, quand tu pénètres un corps d'homme et que tu cherches sa prostate, ça peut faire beaucoup de choses très belles
très
aussi.
Cool, ouais, de ouf.
Mais il y a vraiment cette question-là qui est hyper importante, effectivement, et je sais qu'en lisant des rapports, par exemple, de juges au Maroc, il y a des hommes pénétrés qui ont été pris dans le même acte que l'homme pénétrant en question, ils sont pris tous les deux, et en fait, l'homme pénétré a pris 2 fois plus de mois de prison.
Ah ouais. C'est ouf, le jugement de valeur qu'on donne à juste quand tu dézoomes de ça, que tu prends juste le truc anatomique, tu sais, où t'es là, genre, mais en fait,
ça n'a aucun sens.
Ouais. J'avais lu le truc en Grèce antique aussi, il y a longtemps. Il y avait ce même truc-là, c'était ok de relationner avec un homme, d'avoir du sexe avec un homme, à partir du moment où tu pénétrais.
Oui, alors après, en Grèce antique, c'était un système qui était très établi, ça s'appelle l'Éraste et les Romaines, et en fait, c'était effectivement 2 mecs. Il y avait un mec qui avait genre 30, 35, et l'autre qui avait genre 15, quoi. Donc c'est déjà un peu pédérastique.
Avec des esclaves, avec les pédérastes, mais il y a aussi ce truc-là, où même, je lisais des trucs où l'amour entre hommes, mais l'amour, c'était hyper valorisé, et que la femme, c'était vraiment reproduction, mais que l'amour spirituel, machin, c'était... Et ce truc-là, que d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu, je l'ai pas lu encore, mais est-ce que les hommes sont vraiment hétéros?
Je ne l'ai pas lu encore.
Et qu'il y a ce truc de, en fait, on valorise cette amitié, cette fraternité, cet amour qu'il y a entre les hommes, et qu'on considère que c'est ça qui spirituellement t'élève, et que la femme, c'est vraiment la reproduction. Et donc, du coup, c'est ce que tu dis. Donc, il y avait cette notion-là de oui, en effet.
Ouais, mais c'est tout à fait. Mais c'est vrai que, en fait, dans cette composition Éraste romaine, t'as un mec qui apprend à l'autre comment on pénètre, etc. Donc, c'était pas tant le gosse de 14-15, il savait pas à l'époque, en fait, ce qu'il avait comme plaisir, puisque du coup, il pouvait pas. En fait, c'était immonde de pouvoir imaginer que lui puisse pénétrer les races. Et donc, du coup, il y avait pas d'inversement de rôle dans ces rôles sexuels-là. Parce qu'effectivement, comme tu dis très bien, les femmes étaient uniquement recluses dans la reproduction. Et donc, elles pouvaient pas faire autre chose que de prendre du plaisir à ce moment-là, juste pour produire plein de gosses et d'héritières. Mais en revanche, dans ce système-là, dès que les faibles, du coup, commençaient à avoir des poils au menton, ou commençaient à avoir genre 17-18, avoir la voix qui muait, etc., ils arrêtaient la relation, ils reprenaient avec quelqu'un d'autre.
Mais ce que je trouve pas logique, c'est que du coup, il a été pénétré à un moment. Donc quoi, genre, on switch et du coup, c'est OK.
Et là,
ton rang social, il y a vraiment... encore une fois, le double standard, il est trop... Et tu te dis, on parle d'un corps qui rentre dans un... Enfin, à partir de ce moment-là, quand tu détaches tout jugement de valeur là-dessus, ça ne fait aucun sens, quoi. C'est dur de trouver un sens à ça, et surtout, comme tu dis, non, mais c'est peut-être relié tout simplement au plaisir aussi, tu vois, ce truc de mon Dieu, on peut prendre du plaisir avec ça, et le plaisir, c'est le plaisir encore plus charnel, c'est oh mon Dieu.
Ouais. C'est vrai que c'est horrifiant aussi par rapport à la question des personnes hétérosexuelles, tout simplement, puisque du coup, il y a plein d'hommes aujourd'hui, il y a un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle L'homme pénétré, et qui explique très bien aussi cette question-là de les hommes dans les rapports hétérosexuels, ils ont absolument pas envie
de, bien
qu'on
sûr.
Discute ou qu'on parle potentiellement d'un petit doigt dans le fion parce que ce serait quelque chose qui pourrait...
Bah, la peur de devenir gay.
Bah, exactement.
La peur d'aimer, en fait. La peur d'aimer, ouais.
Voilà,
si je kiffe, c'est clair. Ça veut dire quoi de
alors
moi
que c'est les mêmes gars qui restent aux toilettes 25 minutes. Tu fais quoi? Et tu fais quoi? À vous, c'est parce que tu kiffes un petit peu, en vrai. Il y a un petit truc de genre, ouh là, c'est sympa. Non, mais vraiment. Je vous invite à passer une autre question. Alors là, pour le coup, parce que ça avance très vite, ouais. Je demande aux gens sur Instagram maintenant de répondre à une question pour qu'on ait un peu d'éléments de réponse et qu'on, et qu'on puisse répondre avec eux et elles. Un truc que tu pensais kiffer, mais que tu n'as pas aimé. Je vais vous lire quelques réponses. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'hétérosexualité. Voilà. Moi, malheureusement, je suis encore coincée dedans. Mais il y a plein de trucs. La fellation revient beaucoup. Et il y a beaucoup d'hommes ou qui disent la fellation, en fait, au final, pas tant que ça.
Mais le sexe oral, c'est quand même très ouais. surcoté. Dans le porno aussi, c'est représenté comme quelque chose de très jouissif. Mais en pratique, il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément, qui kiffent pas le truc ou qui sont un peu dérangées aussi.
J'ai l'impression que c'est soit tout l'un, tout l'autre. Soit des gens, c'est genre le summum du summum, mais c'est genre que ça, ils ne feraient que ça, tu vois, que du
ouais,
sexe oral.
Ouais.
Soit d'autres, ouais, c'est en mode, bah, en fait, c'est pas
dans le goût.
Pas, ouais.
Moi, c'est plutôt une question de lieu. Ça veut dire que les lieux publics, en général, ça fait un peu rêver. Tu te dis sur la plage, dans un parc, en hauteur, ou je ne sais quoi. En fait, à chaque fois, c'est hyper stressant. Moi, je
ouais.
suis pas du tout à l'aise, parce que
ouais,
je me dis,
ouais,
mais
là, ouais.
merde, si je me vais prendre, du coup, oulala, ça va être compliqué. Et puis, t'es pas vraiment à l'aise. Enfin, c'est pas, c'est aventureux. Mais en même temps, t'es pas à l'aise, en fait. T'es pas 100% toi-même. Tu te dis, bon, sur le moment, il faut faire l'acte. T'es dans un truc un peu effusif comme ça, hyper volcanique. Mais ouais, je pense que c'est... En tout cas, pour moi, c'était assez déceptif.
Quoi. Déceptif, ouais. ouais. Ouais, je comprends. Sexe sous la douche ou dans l'eau de manière générale. Non, mais ça, de ouf. Moi, je comprends pas ce
délire. C'est assez merdique. Hein.
Mais puis ça, c'est affreux, la sensation.
Ouais,
c'est
ouais.
Mais
ouais.
juste logiquement, tu sais que ça marche pas, en fait.
Mais et pourtant, ça fait partie des choses qui sont représentées comme très érotiques.
Ah, mais oui.
Et pareil, très, très épanouissantes, orgasmiques presque, mais quand tu vois tout ça. La façon dont c'est représenté, il y a beaucoup dans les films.
De mais même Loana de... et...
Ouais, là, oui, mais voilà.
Non,
mais
je crois que c'est toutes les réalités.
ça a influencé. Mais je dis ça en même temps. Moi, je sais qu'un de mes scénarios, c'est dans l'eau, mais pas, c'est pas l'eau. C'est pas un élément de fantasme. C'est juste, parce que moi, j'imagine au fond de l'océan, genre un truc, c'est un truc qui n'existe pas, tu vois. Et du coup, il y a l'élément de l'eau. Mais c'est vrai que l'eau, c'est pas, je me dis pas que c'est un truc dans la douche. Je vois pas. Non, les gars, c'est... Et puis, il n'y a plus les goûts, il n'y a plus rien, il n'y a plus... Qu'est-ce qu'on me dit aussi qu'on me parle vraiment mal de, donc la violence. Alors tu vois par exemple ouais. la personne dit la violence au lit oui, mais le corporel la douleur oui, mais la violence verbale non.
Ouais,
c'est voilà. intéressant aussi de voir qu'on peut que c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Le 69 revient de ouf et la levrette. La levrette
ouais.
aussi ouais, mais et j'aime bien parce que vraiment en général les gens ou enfin cette question un truc que tu pensais kiffer mais que t'as pas aimé, moi je m'attendais à des trucs genre waouh, je sais pas, genre des scénarios de ouf et les réponses ça reste des choses classique,
ouais.
donc
ouais.
Vraiment ouais, la levrette, alors que t'as l'impression que la levrette c'est un peu le rite, c'est obligé d'aimer la levrette en fait, comme quoi il y a vraiment un truc ancré que même des choses les plus, le béaba du cul on va dire, bah en fait même ça on a le droit de décider si on aime ou pas en fait.
Ouais mais on se rend compte que le béaba il est extrêmement façonné par
oui,
le
voilà.
regard masculin,
ouais, ouais.
Le plaisir masculin,
ouais, ouais.
en fait là tout ce que tu viens de présenter c'est des choses qui sont plutôt tournées autour du plaisir du pénis et c'est ce qu'on va centrer en fait vraiment au
ouais.
cœur des relations sexuelles et c'est fou parce que moi je m'attendais aussi à des choses un peu plus alternatives on va dire des trucs un peu que tu dis ah ouais ça c'est un peu fou je vais
ouais.
le tester et en fait non c'est trop compliqué machin mais c'est vrai qu'en fait c'est dans ces petites choses qu'on va présenter comme normales. Donc et ou qui sont aussi beaucoup des fantasmes qu'on va qui sont dans la domination, dans la violence
ouais.
et qui du coup en fait tournent beaucoup autour du pénis et du plaisir masculin. Dans le cas où la personne masculine a un pénis et cis et se retrouve aussi dans cette masculinité très performative et très violente en fait. Et ça, moi, la violence dans le sexe, c'est le truc qui me rebute le plus. Je ne peux plus En fait, accepter tant que c'est non consenti. Et après, il faut même voir dans les espaces consentis de quoi est façonnée cette violence, quel est l'imaginaire autour de ça, de quelles sont les influences autour de ça. Et pour moi, le sexe consenti ne peut pas fonctionner avec la maltraitance, parce que moi je le vois comme de la maltraitance et de la négligence.
Mais c'est aussi très désubjectivant en fait, le côté, le vrai, parce que du coup tu vois même pas la tête de la personne qui est en face de toi, tu vois un cul qui est devant toi et en fait voilà, ça objectifie le corps et effectivement ça peut, on peut prendre beaucoup de plaisir pour l'une et l'un ou pour l'autre, mais c'est aussi quelque chose qui est pas un rapport de vraiment corps à corps purement. Après, il y a aussi effectivement ce truc-là patriarcal qui dit que, dans une position de missionnaire, par exemple, c'est pas pour rien que c'est aussi celle qui est la plus plébiscitée, la plus pratiquée partout, tout le temps. C'est que c'est aussi une question où l'homme a l'ascendant physique sur la femme, du coup, sur le corps, en tout cas pénétrant, sur le corps pénétré. Et là, moi, il y a certaines fatwas dans le monde musulman d'espèces de patriarches un peu énervés qui disent c'est la seule position disponible et qui est religieusement licite. Mais évidemment, parce qu'en fait, à partir du moment où tu fais un andromaque ou que tu te poses en tant que femme sur l'homme, ou enfin disons entre corps pénétré sur un corps pénétrant et de faire ce que parfois les sexologues appellent la circlusion, c'est-à-dire que tu entoures et englobes et absorbes le pénis plutôt que de te faire pénétrer, du coup ça change le rapport de domination. Et bien quand la femme est sur l'homme, ça devient hyper chiant pour le patriarcat, parce que du coup elle est en charge du rythme, du plaisir.
Du plaisir, mon Dieu. Non, mais clairement.
Et c'est horrifiant, voilà.
Mais hyper pertinent de voir que tout ce scénario, il faut vraiment y aller cas par cas et reprendre chaque chose. Parce qu'après, tu peux aussi tomber dans le truc de... Justement, il y avait ce discours sur la pénétration. Oui, la pénétration, c'est pas obligatoire, c'est pas... Et c'est vrai que moi, ça m'a mis dans la situation contraire de me dire « Merde, mais en fait, je crois que j'aime bien. Oh shit, tu vois, genre waouh, qu'est-ce qui se passe ? C'est la levrette, en fait, moi j'adore, mais en fait, merde. » Et j'aime bien revenir toujours à ce côté très anatomique de juste, est-ce que anatomiquement, ça te fait du bien et tu apprécies ce qui se passe, que ce soit être en levrette, te prendre une fessée ou être frôlé. Il y a des gens pour qui frôler, pour moi, ça va être super doux. Il y a des gens, genre, ça les dégoûte, tu vois, genre d'être juste avoir ce truc, ça les... y a un truc qui leur hérisse le corps. Et juste de repartir d'un truc de... Si on enlève toutes les significations qu'on peut donner à des positions, à des comportements, mais est-ce que juste ça te fait du bien ? C'est un peu dur de revenir à ça, mais pour revenir à ce que tu disais aussi, moi, c'était vraiment quelqu'un qui, en effet, avait une vision de la domination et de la femme dans les rapports qui était juste liée à la vision qu'il avait de la femme de manière générale. Et pour ça, pour cette raison, je ne pouvais pas avoir de rapport de domination avec lui. Et il disait, mais pourquoi ? Parce qu'il m'a dit très clairement, oui, je pense que les femmes sont faites pour être dominées, elles aiment être dominées, c'est un truc très naturel. Et t'es là, genre... Attends. Là, tu as sorti ces mots en toute conscience de ta bouche. Là, tu valides ce que t'as... genre, je te laisse une chance. Tu valides ce que t'as dit ? Ouais. Et donc après, tu me dis que tu veux me dominer dans le cul parce qu'en fait... Mais en fait, il est où mon libre arbitre ? Elles sont où mes préférences ? Elles sont où... Enfin, et puis... En essentialisant tout petit peu. Mais t'es là, ouais, mais moi j'ai rencontré plus de meufs qui aiment se faire dominer. Oui, mais gars, en fait, au bout d'un moment, si elles ont toujours l'habitude de ce scénario-là et qu'elles n'ont même pas pu le questionner, c'est peut-être pour ça aussi, tu vois, que ces meufs-là vont dans cette direction. Mais et à ce moment-là, ouais, ça m'a coupé toute. Et pareil, j'ai dû réapprendre à me dire, du coup, dans le contraire, ah ouais, moi j'aime pas du tout ça, parce que j'ai été face à des mecs qui, en effet, avaient cette intention-là. Et j'étais là, du coup, je ne peux pas avoir accès à cette partie-là de la sexualité parce qu'en effet, c'est de la violence et de la négligence. Et en fait, d'avoir, et de revenir, de me dire, non, physiquement, j'aime bien la sensation physique de, je lui dis n'importe quoi, la fessée, parce que, juste physiquement, ça fait du bien. Ok, j'ai le droit d'accepter aussi que bien j'aime sûr. Ça, tu vois.
Ça, c'est hyper important ce que tu dis.
L'ambivalence, elle est dure, elle est difficile à naviguer.
C'est hyper important parce qu'en fait, il faut évidemment se dire que tout ce qui nous fait du bien, même si ça peut faire du mal à d'autres personnes, en soi, c'est ma personne. C'est à moi que ça fait du bien, en fait. Je t'ai pas demandé de coucher comme ça. Je dis juste que moi, c'est comme ça que je kiffe. Et en fait, c'est quelque chose qui est aussi assez révélateur des discours qui sont contre-tyranniques, un peu, de non, pas de pénétration, sinon pas de sexualité, ou des discours tyranniques, par exemple, dans le monde gay, tu as aussi quelque chose de très très fort autour de la pénétration anale, et donc du coup du truc de, il faut en fait, tant que tu n'as pas essayé d'être un bottom ou d'être du coup une personne pénétrée dans l'anus, tu ne peux pas savoir encore ce qu'est le plaisir masculin. Okay. C'est complètement faux, puisque du coup, tu peux complètement ne jamais avoir été pénétré et avoir eu beaucoup de plaisir et des orgasmes, etc. Et tu peux aussi ne pas kiffer du tout. Tout le monde n'a pas la même prostate, tout le monde a la même anatomie, etc., etc. Et tout le monde n'est pas un homme cis. Enfin, voilà. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut détailler. Et en plus de ça, il y a une espèce d'homonorme, en fait, d'homonormativité dans le cul qui s'est dégagée au fur et à mesure du temps, puisque du coup, en fait, les gens se disent, tant que je n'ai pas essayé, en fait, je suis pas assez gay pour.
Okay. Ouais.
Ou ça, c'est complètement à côté de la plaque. Et c'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qu'on appelle les sides. C'est des gens qui n'aiment ni pénétrer ni être pénétrés.
Okay.
Et qui sont du coup des hommes gays qui adorent le cul comme, enfin, comme
les autres possibilités.
Voilà, toutes les autres possibilités, qui n'ont pas forcément envie d'insérer ou d'être pénétré.
Ouais. C'est toute une affaire. C'est très personnel, en fait, tout ça. Et c'est dommage de. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc de. J'ai l'impression, quand tu parlais de ça, qu'il y a ce truc de. Tu sais, cette envie d'appartenance, c'est ce besoin d'appartenance qui est très humain. Et que finalement, même dans le cul, en fait, on a tellement cette peur de pas d'être anormal, avec mille guillemets, de pas. D'être différent de ses pairs, que même là-dedans, en fait, on se conforme à cette espèce d'instance du cul qui a décrété que c'était comme ci et pas comme ça. Et même là-dedans, finalement, on s'impose des choses, on évite des choses parce que, ouais, il faudrait pas que telle personne sache ou ça veut dire que je suis pas normale ou que j'aime des trucs et passe à côté de juste, ouais, son propre plaisir. Et pour faire une analogie, typiquement, moi, je suis tatouée de partout, ça fait mal. Mmh. On va pas me dire, les tatoueurs, ils tatouent des gens, ça fait mal. Et pourtant, on est là, bah oui, on dit pas, ouais, non, mais toi, tu subis la violence de. Non, j'ai choisi de me faire tatouer, de me faire. Ça défonce, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile, hein, parce que on a tellement de encore une fois de messages pour revenir à cette première question et d'injonctions qui viennent de partout, que ce soit religieux, médical, social, tout ce que tu veux, artistique, même j'ai envie de dire capitaliste, que arriver à se dire ça en fait, j'aime bien ou j'aime pas pour ces raisons. Je trouve que c'est hyper difficile,
c'est
d'avoir accès à ça
vrai,
et que faut prendre le temps et faut être confronté aussi aux situations, tu vois, c'est ça
vrai,
aussi.
Bien sûr.
Tu peux aussi ne pas savoir et tu peux aussi être dans un état de bon, en fait, j'arrive pas à dire, j'ai pas eu assez de recul et d'expérience pour savoir tout ça, mais ouais, c'est un long parcours et c'est quelque chose, ouais, faut prendre le temps et c'est ok, quoi.
Mais ça nous rappelle aussi qu'il y a pas, il y a aucun espace d'imperméabilité au patriarcat et à la domination masculine, en fait.
Ouais.
Ça rappelle aussi que même dans les pratiques sexuelles, pas juste la sexualité
les pratiques,
général,
genre,
vraiment même dans les pratiques, il n'y a pas d'espace d'imperméabilité. Et même quand on est dans tout ce processus de questionnement qui peut être extrêmement long et très déstabilisant, parce qu'après c'est se dire, bon alors la pénétration, j'arrête un temps, et après de se dire, mais en fait j'aime bien, mais est-ce que j'aime vraiment?
Pourquoi exactement,
ou est-ce que finalement j'aime parce que c'est plus simple, les mecs préfèrent le faire tout de même, et que j'ai appris à aimer, et enfin c'est tout un... C'est un millefeuille.
Ouais.
Il faut prendre le temps d'enlever couche par couche. Et je pense que c'est un peu... Enfin, c'est pas vraiment une destination, c'est la direction qu'il faut prendre. Parce qu'à quel moment est-ce qu'on réalise vraiment ce qu'on aime pour soi, en le détachant du patriarcat, détachant du porno, en le détachant de ce qu'on a entendu autour de soi. Et des normes aussi, des communautés auxquelles on appartient. Parce que il y a les normes hétéro, il y a aussi les normes dans la communauté gay par exemple, qui va façonner énormément tous ces petits marqueurs identitaires en fait qu'on va prendre pour soi parce qu'on en a besoin quand même.
Ouais.
Mais ça nous rappelle à quel point l'influence en fait du patriarcat, elle est hyper présente et elle est en soi, même si c'est un truc que tu verbalises pas avec la personne. De toi-même, tu vas dire, mais je suis pas normale si je kiffe pas ça. Ou alors, je suis plus normale de kiffer ça parce que je suis féministe.
Exactement.
Parce que ça. Parce que je le dénonce sur Insta, parce que j'en parle dans mon livre, parce que j'en parle dans mon podcast. C'est tout un truc où on se dit, ben, où est vraiment le personnel? Où se place le goût vraiment de...
Mais t'as posé une bonne question, du coup. Comment est-ce que... Je sais pas si vous arriveriez à répondre à là, maintenant, on the spot, mais... Comment est-ce que tu arrives à dire que quelque chose, tu l'aimes, une pratique, quoi que ce soit, une stimulation, tu l'aimes parce que tu l'aimes? Ou est-ce que c'est parce qu'on t'a conditionné?
Je trouve que c'est quelque chose qui se pense pas, qui se ressent.
Qui se ressent,
ouais. Ça se ressent.
On est dans le corps, ouais.
Ouais, on est vraiment dans un truc hyper immanent du corps qui... Ça part de... En fait, ça te dépasse un peu, justement. Il y a un côté effectivement un peu corporel, mais à la fois aussi transcendant, parce que tu sais pas vraiment ce qui se passe. Et t'as pas décidé que ton corps allait vivre ça. Un peu comme un orgasme, en fait. Tu déshabites un peu ton corps quelques secondes parce que tu es un peu dans les vapes, tu adores, t'es dans une espèce de paradis artificiel, etc. Moi, je trouve que c'est quelque chose très puissant, que c'est quelque chose à rechercher, en fait, parce que le plaisir, il ne doit pas être détaché complètement. Cette vision-là hyper orthodoxe de « on n'a pas à vivre ce plaisir-là à ce point-là ». Mais je pense que quand on aime, on sait. On sait qu'on aime. Surtout, on sent. C'est-à-dire que c'est une question de savoir corporel, ce n'est pas une question de savoir théorique. Et quand on n'est pas sûr, en fait, on sait très bien quand on n'est pas sûr. C'est juste qu'on est juste absorbé et phagocyté par un ensemble d'injonctions patriarcales.
Qui pollue le...
D'hétéronormes, etc. Qui nous pollue l'esprit, qui nous dit « Ah, mais peut-être que si je dis que j'aime pas, en fait, je vais paraître pour une conne ou un con. Et... »
Donc ça, c'est un bon repère. Est-ce que, si t'es en couple, justement, où tu relationnes avec quelqu'un, est-ce que t'arrives à dire ça à la personne sans... Est-ce que tu le dis pour la relation, ou est-ce que tu vois ce que je veux dire, genre c'est un peu ce truc pour la libido. Moi je dis pareil, il y a beaucoup de femmes hétéros qui viennent me voir, oui je perds ma libido, j'ai plus de libido. Je dis, est-ce que tu serais seule célibataire, tu dirais que t'es en chute de libido? Si c'est non, c'est que c'est pas une perte de libido, c'est que c'est pas une chute de libido. Donc peut-être un truc de voir que ouais, si il y avait aucun enjeu avec la personne et que tu risquais pas de la décevoir, de la perdre, de ce que tu veux, de pas lui plaire machin, est-ce que tu le ferais quand même? Je pense que ça peut être un bon indicateur de ça. C'est peut-être un bon message, un bon conditionnement.
Et, et déjà entre se le dire et le dire au partenaire ou à la partenaire, déjà il y a un gap. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas le dire à la partenaire ou au partenaire, mais se le dire à soi, c'est déjà une bonne étape pour se dire est-ce que je suis vraiment certaine, c'est vraiment ce que je veux et que ça me fait vraiment du bien, que je kiffe vraiment.
Vous avez des exemples, vous, de trucs comme ça, vous êtes dit en fait, je sais pas.
Mais moi, je crois que mon premier rapport sexuel, ça a été, enfin, dans les premiers, parce que le premier, il est jamais vraiment, enfin, en tout cas, de ce que je sais autour de moi, c'est jamais la meilleure expérience du monde. Mais vraiment, moi, ça a été mon introduction à la sexualité. J'étais en mode, mais c'est quoi ça, quoi? Et qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que tu t'en entends parler comme quelque chose de merveilleux. Et en plus, t'as un peu honte de pas t'en kiffer. Tu sais pas si c'est ta faute, si c'est la faute de ton ou ta partenaire. Quand on me parle, t'as un peu honte parce que tout le monde est, mais c'est génial et tout, machin. T'es genre, je sais pas trop, je crois que j'aime pas. Quand tu dis que t'aimes pas, les gens sont, mais surtout à l'époque, vraiment stupéfaits. Enfin, moi, ça remonte à il y a 10 ans, on va dire, mes premiers rapports sexuels, et je me sentais extrêmement seule. Maintenant, on en parle plus de ce qu'on kiffe pas, de ce qu'on kiffe, des déceptions qu'on peut avoir, ou justement des belles découvertes, au sens inverse. Mais moi, ça a été, clairement, le sexe, juste... La base du truc, j'étais genre, mais c'est quoi ce truc? Enfin, je trouvais ça hyper... hyper étrange, deux corps nus comme ça.
C'est un concept étrange quand on y pense.
Mais c'est chelou
quand on y pense.
Mais moi, je le vivais en bizarre, quoi. Je me disais, c'est quoi cette histoire? Et t'as personne à qui en parler. C'est pas comme maintenant où t'as des plateformes, tu peux poser des questions, t'as des espaces de réflexion et de questionnement. À l'époque, t'as rien, quoi. Et t'es juste anormal.
Ouais, c'est
ça. Tu te dis, il y a un problème chez moi. Genre, alors que t'as peut-être trouvé juste des partenaires qui te convenaient pas ou des pratiques qui ne te convenaient pas.
Complètement.
Mais quand t'es un peu toute neuve dans ce milieu-là, ce milieu, dans cette partie de toi et de l'autre, tu peux pas savoir ça. Et ça t'est tellement imposé comme quelque chose qui va t'apporter du plaisir. Et le plaisir est tellement... important, et pour le coup l'orgasme par exemple,
c'est glorifié de ouf,
et si tu l'as pas, c'est quoi ton problème?
Ouais, puis il y a tout ce message de faut pas trop que tu le fasses parce que t'es un peu une petite, tu le fais, mais en même temps si tu kiffes pas, ça veut dire que t'as un problème.
Exactement, c'est dysfonctionnel.
C'est
un truc qui marche pas chez toi.
Moi
c'était plutôt, si j'y réfléchis bien, c'était plutôt la question des odeurs. Ça veut dire que par exemple quand je tombais sur des partenaires où je me disais ça sent pas très bon, ou quand on a les corps chauds qui sont un peu en ébullition, que ça transpire, ou que par exemple il y a une émission de liquide, etc., eh bien ça me plaisait pas. Je trouvais que ça pue un petit peu, ça me répugnait un peu de devoir lécher, de devoir mais je faisais quand même. Je faisais quand même parce que je me disais, non, il faut que tu aimes. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut aimer puisque c'est le corps que tu désires. Donc, il faut prendre avec tout ce qu'il y a avec. Et c'est, je dis pas que le corps devait être répugnant. C'est juste que l'odeur ou les émissions comme ça qui sont corporelles dans l'acte, le fait de voir se frotter dans la sueur, etc., c'est pas quelque chose qui me faisait kiffer. Mais je pense que j'ai beaucoup, beaucoup fait de ça aussi parce que je me suis dit, il faut faire ça.
Il faut faire ça, ok.
Ouais.
C'est marrant, on parlait de ça juste avant avec les autres invités et c'était tout le contraire. C'était waouh, les odeurs, les fluides, les trucs. C'est ça que je veux. Genre, je veux que de ça, même s'il y avait que de ça. Donc,
mais après, je dirais que ça dépend de la personne aussi parce que du coup, moi, il y a des odeurs avec transpi, même si ça pue après le sport, je ne sais quoi, ou. j'irai. Enfin, y a, tu vois, si c'est la personne avec qui je partage ma vie, si c'est une relation amoureuse en plus de sexuelle, enfin, moi, j'ai aucun problème. S'il y a des accidents, par exemple, je sais pas, on a pas d'accident, par exemple, quand on fait un acte de pénétration anale et que du coup, bah, il y a un peu une trace de merde, etc. Bah, on va pas se dire, ah, oh, beurre, c'est ça me dégoûte, je sais pas quoi, ton corps est dégueulasse,
t'as décidé
évidemment.
D'aller là, a priori.
Voilà, donc... bah ouais, donc t'es au
courant. C'est une bonne, moi, je pense que j'ai un gros double standard là-dessus, que qui est là et que, moi, un mec qui ne lèche pas de meuf, je suis là, bah non, en fait. Alors qu'une meuf qui veut pas sucer un mec, je suis là, t'as raison de ouf. Tu vois, parce que, c'est un truc politique un peu de genre, en fait, gars, je peux pas dire tu dois, c'est impossible, je ne dirais jamais ça, mais un truc de ouais, mais toi, les raisons pour lesquelles tu lèches pas une meuf, c'est pas les mêmes raisons qu'une meuf, tu vois.
Tout à fait.
Et du coup, dès que j'entends, j'ai ce truc, et je sais pas bien, tu vois, mais dès que j'entends un mec qui fait ah non, moi je peux pas, les odeurs et tout, je suis là, ouais, non, mais gars, en fait,
non, c'est autre chose.
En fait, tu connais pas, et c'est juste que tu t'attends à un truc, mais oui, je pense que clairement, c'est un truc, t'as le droit, enfin, encore une fois, oui, t'as tes sensibilités, et en fait, faut juste pouvoir les conscientiser, mettre les mots dessus et expliquer aussi à l'autre, quoi. C'est important de, encore une fois, jamais imposer, en fait, c'est tout. Et que si la personne en face arrive à dire, ouais, mais moi, c'est ma passion, justement, le sexe oral, bon, bah, écoute, on va voir comment on peut faire. Mais ouais, non, je comprends, mais c'est difficile. Moi, je pense que je me pose encore la question pour mille trucs et que je sais toujours pas, en fait. En fait, j'aime bien, j'aime pas. Sur le moment, j'aime bien, la fois d'après, j'aime plus, en fait. Et ça aussi, je crois que c'est hyper important de se dire, peut-être ça peut changer d'un moment à l'autre, personne à l'autre.
Bien sûr.
Et qu'en fait, à partir de ce moment-là, bah juste là maintenant, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'aime
exactement.
Ça oui non et puis c'est tout en fait et que on va passer à une dernière question. Je vous annonce, on a tiré une carte. Ça me plaît, c'est la meilleure partie, on a tiré
c'est
une
un
carte
record.
La dernière question pour clôturer cette conversation qui est passée très vite c'est une petite question un peu à la con que je pose à la fin, c'est si ta sexualité était un animal, lequel ce serait et pourquoi. Et je dis toujours le paresseux, mais je pense jamais à la pieuvre.
Ah ouais, mais je ne connais pas. Ah ouais,
les pieuvres, c'est hyper intelligent, c'est hyper émotionnel.
Oui, c'est vrai.
C'est hyper. Je me sauce complètement en disant ça. J'avais trop qu'ils soient dans la gueule derrière. Parce que les pieuvres, vraiment, c'est le meilleur animal qui soit et que tout le monde voudrait être une pieuvre. Non, mais moi, je dis paresseux. C'est moins sexy, les paresseux. Mais pieuvre, j'aime bien. Non, c'est hyper joueur aussi, les pieuvres. Mais en même temps, des fois, c'est un peu flippé par le moindre truc. Ça peut réagir très vite. Et en même temps, c'est hyper... ça s'adapte de ouf aussi, je crois, à son environnement et tout. Donc, je crois que j'aime bien les pieuvres. Puis, un peu le délire des pieuvres. Bref, on voit un peu tout l'imaginaire qu'il y a et qui peut être rigolo quand j'y pense. Donc, moi, je dirais ça aujourd'hui.
Moi, je pense au chat dans ce truc assez délicat. Moi, j'ai beaucoup de mal à avoir une sexualité plus violente ou vigoureuse, je veux dire. Donc, ouais, je pense un peu à la délicatesse du chat et le chat décide. Genre, s'il veut pas que tu l'approches, tu ne l'approcheras pas. C'est physique et c'est pas verbal, mais on va dire que c'est vocal aussi. Le chat, tu remarques tout de suite dans son comportement, dans son attitude. Clair. Et j'aime bien ça. Je me vois plutôt comme un chat, mais un peu dans tout, je crois. Donc, c'est pour ça que ça se lit.
Je vois complètement.
Mais ouais, je sais pas après si c'est un animal très intelligent, très émotionnellement très développé. Mais ouais, le chat me convient.
J'aime bien l'image. Puis ça ronronne, les chats.
Ouais, c'est vrai. J'aime bien aussi. Quand il prend du plaisir, tu le vois tout de suite.
Exactement. Et puis après, ça peut, à la seconde près, il peut te faire. Non, oui, c'est 15 fois le ventre, mais une demi-seconde, la seconde d'après, c'est mort. J'aime bien les chats.
Alors moi, je sais pas du tout quoi répondre. J'aimerais bien me dire que je voudrais me réapproprier le lion.
Ok.
Pourquoi ? Parce que bah déjà, on parle des lions de l'Atlas, que c'est quelque chose qui me ressemble du coup de par mes origines. Mais j'aime pas le lion comme juste le roi patriarcal qui nique toutes les lionnes de la savane et qui du coup défonce tout le monde. Mais juste de se dire qu'un lion, ça peut être doux aussi. Que ça peut être amical, qu'il peut traîner aussi avec d'autres lions, qu'il a aussi parfois une meute avec une seule lionne avec qui il reste longtemps, etc. Et j'ai l'impression aussi que y a cette vigueur-là, c'est ce qui aussi peut le rendre vulnérable, puisque en fait, c'est pas lui qui va chasser, c'est pas lui aussi, disons qu'il se prélasse pas mal toute la journée, que sans la lionne, il peut rien faire. Je trouve qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre de la vulnérabilité. Puis je trouve qu'aussi, il y a un truc qui caractérisait plus, si je dois vraiment déverser mon intimité ici, c'est la question de la sexualité qui est un peu vanilla spicy. C'est-à-dire le fait que j'aime tergiverser entre ces deux univers-là, quoi. Je pense qu'on peut avoir zéro ennui en alliant un peu la question pimentée du couple tout en ayant quelque chose de la douceur, de la vulnérabilité, de l'entente, de l'écoute. Je pense qu'on peut complètement avoir les deux. En fait, c'est pas juste chiant d'être dans un truc d'écoute et d'entendre.
Et c'est pas deux extrêmes opposés. Ça peut, c'est des choses qui peuvent s'entrelacer.
Exactement.
Plutôt bien, même.
Mmh, oui, et qui peuvent cohabiter plutôt très bien.
Tout à fait. Voilà.
Trop intéressant. Ouais. J'adore. Bon, du coup, les félins plutôt. Quoi.
Ouais. Ouais,
non, mais je comprends. Souvent, je dis chat, moi aussi, mais là, j'essaye de trouver des trucs. Je pars dans des délires de pieuvre. Mais le chat, moi, je. Surtout pour l'image du chat que t'essayes de caresser et t'as la tête qui s'enfonce comme ça. Ouais. Ça, là, c'est moi, ça. Bah écoutez, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup de vous être livré comme ça et d'avoir participé. Est-ce que vous avez d'autres une petite promo à faire en ce moment ? C'est le moment si vous voulez parler de vos projets, de vos comptes Insta, de vos comptes perso. Allez-y, c'est
Je peux parler de mon compte Insta avec Plaise, ouais. Sur lequel j'aborde des thématiques à peu près toutes les deux semaines, tous les mois. Ça change un peu de mon envie, on va dire. C'est énormément tourné autour de l'intime. Donc, on décortique ensemble, on prend des lunettes de féministe, on regarde un sujet, on le décortique ensemble. Je récolte beaucoup de témoignages que je reposte anonymement. Et il y a des personnes aussi qui peuvent m'écrire sans vouloir être publiées. Il y a beaucoup, d'ailleurs, beaucoup de personnes qui le font. Donc, vous êtes les bienvenus à me retrouver sur Insta. Et après, il y a mon livre, bien sûr, dans lequel j'exporte un peu ce que j'ai fait sur Instagram. En faisant une sorte de concentré où j'aborde beaucoup de sujets. On a parlé de racisme sexuel et de fétichisation. J'en parle dans le livre. J'ai ajouté des témoignages, toute la question de la domination masculine et comment est-ce que le patriarcat, en fait, s'est infiltré dans nos vies jusqu'au sous nos draps. Parce que ça, il faut vraiment le réaliser et de se dire que, oui, je le dis tout le temps, de toute façon, l'intime est politique. Les espaces d'imperméabilité n'existent pas. En tout cas, pas encore. Qu'il faut questionner tout. Je pose plein de questions dans mon livre. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus pour vous le procurer et s'en parler après sur Insta parce que je réponds à tout le monde.
Trop bien.
Voilà.
Trop bien. Merci. Et tu me donneras tous les liens, je mettrai tout dans la description de l'épisode. Tout le monde sera tagué, tout le monde aura. Il y aura de quoi. Et toi, est-ce que tu as envie de parler de.
Oui, bien sûr. Rapidement, je vais juste évoquer le fait qu'il faut aller écouter Jeans, tous les épisodes de Jeans qui sont disponibles en tant que podcast sur toutes les plateformes d'écoute de votre choix. Vous pouvez aller aussi sur Instagram @jeans-podcast, puis me parler. C'est ce que j'imagine être un safe space, j'espère, le plus possible pour la majorité des personnes qui se sentent esselées parce que à l'intersection d'identité plurielle. Donc, si vous êtes une femme qui fait du travail du sexe et qui est musulmane, vous pouvez venir me parler. Si vous êtes un homme gros, noir, gay, qui a une spiritualité quelconque, vous pouvez venir me parler. Mais au-delà de tout ça, venez écouter les épisodes. L'actualité de Jeans, c'est que toutes les deux semaines, tous les mois, disons environ, dès que je peux en tout cas, dans un peu du temps, je sors un épisode hors série sur des questions de société un peu pointues et qui sont à l'intersection d'identité plurielle. Et c'est vraiment mon mot d'ordre, l'intersectionnalité, le féminisme inclusif à Bâle. Et voilà, donc plein d'événements aussi qui seront cette année disponibles et qui pourront donner à voir un peu plus Jeans dans sa vitalité, dans son côté un peu plus vivant, avec des artistes, avec des universitaires. Voilà, donc je vous convie, du coup, je vous encourage vivement à écouter tous les épisodes pour aussi renouveler votre vision de la sexualité, du genre, au-delà de juste ce qu'on vous raconte dans les médias traditionnels. Voilà.
Grave, trop bien. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très vite.
À très vite.
Merci.
Merci pour ton écoute. J'espère que t'as autant kiffé que moi. Et si jamais toi aussi tu veux jouer au jeu, je te donne rendez-vous sur l'e-shop de la maison d'édition playgendergames.com ou alors on se retrouve sur Insta. À plus.